On va continuer nos enseignements parce que nous sommes dans l'enseignement sur la prospérité. Et nous essayons de comprendre, de mieux comprendre ce que Dieu a pour nous, ses plans pour nous et comment faire. Parce que vous savez, souvent nous sommes dans l'ignorance. Et ça peut nous amener à faire de sacrées erreurs. Ou au contraire, à être complètement bloqué dans nos vies. Parce que nous avons de fausses croyances. Nous n'agissons pas de la bonne manière. Et nous nous retrouvons souvent avec de la confusion dans nos vies. Donc nous avons vu dans 3 Jean verset 2, c'est vraiment le verset de base pour la prospérité. C'est Dieu qui nous parle au travers de l'apôtre Jean. Et il nous dit, est-ce que tu peux baisser un peu les retours là, parce que c'est un peu fort dans nos oreilles, merci. Et oriente-les, merci. Il nous dit donc, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme.
Aravuga muri Yohana wa gatatu ku murongo wa kabiri ngo mukundwa ndagusengera ngo umeregwe neza muri byose uhora uhangaye nkuko ubugingo bwawe bumerewe neza.
Et nous avons vu que la prospérer, littéralement, dans le mot grec, veut dire ni plus ni moins faire un excellent voyage dans cette vie, sous-entendu. Et il est vrai qu'une des parties de faire un bon voyage, c'est d'être largement pourvu financièrement. Mais nous voyons bien que la prospérité est attachée à la prospérité de l'âme. La prospérité, c'est l'épanouissement d'une manière générale. C'est vrai que nous étudions plus l'aspect des finances ici. Mais je vous ai montré que prospérer financièrement, ce n'est pas quelque chose que vous devez chercher comme un but ultime et unique. Votre vie, l'environnement dans lequel vous vivez dépend de ce que vous êtes à l'intérieur. Si vraiment vous êtes influencé par Dieu et par sa mentalité, un des fruits que vous allez vivre, c'est votre prospérité extérieure au niveau finance. Nous avons vu que nous ne sommes plus les propriétaires de nos vies, nous avons donné notre vie à Jésus, nous sommes les gestionnaires de nos vies. Est-ce qu'un propriétaire demande à un gestionnaire, c'est qu'il soit fidèle. Et ce que Dieu te demande, c'est que tu gères correctement ta vie. Tu es responsable de la gestion de ta propre vie. Tu n'auras le droit de blâmer personne, ni aucun événement, ni le diable, pour ton manque de réussite dans ta propre vie. Le jour où tu te présenteras devant le Seigneur et tu seras devant son tribunal de récompense, tu
ne
pourras pas venir en disant, ah oui, j'ai pas pu faire ça Seigneur parce que. Non, dans la parole, tu as tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et quand on commence à comprendre ça dans la vie, on comprend beaucoup de choses. Donc il va falloir que tu t'imprègnes de la parole. Parce que dedans, il y a les 5 piliers de ta prospérité. On a vu que notre vision sur l'argent doit être de comprendre que l'argent n'est qu'un instrument. Un instrument qui doit être en abondance dans les mains des chrétiens nés de nouveau. Afin de financer le royaume de Dieu. Et bien sûr, si tu es très largement prospère, tu seras bien toi-même dans ta propre vie. Tu laisseras un bon héritage à tes enfants. Tu pourras donner en abondance, aider les autres. Et tout ça, c'est excellent. Mais ta vision première, c'est de savoir que l'argent est un outil entre tes mains. Tu dois avoir toujours cette vision, la compréhension de cette vision. Et certains d'entre vous, vous devez vraiment vous le dire à vous-même. de confesser des fois des choses comme ça. L'argent est un outil entre mes mains. Seigneur, je te remercie parce que je ne cherche pas la prospérité, mais je cherche ta mentalité et l'influence de ton royaume. Et le fruit sera ma prospérité financière. Et c'est un outil que je veux utiliser toute ma vie pour toi, Seigneur. Ça, c'est une excellente prière où l'Esprit de Dieu viendra sur vous et commencera à faire des choses, agira dans votre vie. Nous avons vu que nous avons tous une relation avec l'argent. C'est obligatoire. Tous les êtres humains ont une relation avec l'argent. Et il faut que cette relation soit sanctifiée. Et elle peut être sanctifiée seulement au travers de la parole et un changement radical de mentalité. Et nous avons vu qu'il y a 5 piliers pour notre prospérité. Premier pilier, c'est la connaissance de la parole. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de la prospérité financière dans nos vies? Et nous avons vu que Dieu nous veut riches. Dieu veut que son peuple prenne les richesses des nations, produise des finances. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont stériles financièrement. Et
ce n'est
pas la volonté de Dieu. Dieu nous veut bénir, Dieu nous veut prospère. Dieu veut que nous produisions financièrement. Ça fait partie d'une des productions de ce que tu dois produire. La Bible nous compare à des arbres. Des arbres qui portent des fruits en leur saison. Tu portes le fruit de l'amour, tu portes le fruit de la paix, tu portes le fruit de la sagesse, de l'intelligence de Dieu. Tu te maries et tu as des enfants, tu portes des fruits. Tu portes des fruits financiers. Tu portes des fruits spirituels. Tu amènes des gens au Seigneur, tu amènes des réponses de prière, etc. Il y a plein de choses, nous devons produire, nous sommes appelés à produire. Dieu a fait de l'homme un producteur. Si tu es stérile dans certains domaines, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et Dieu veut guérir ce côté de la stérilité. Et parfois, il y a des gens qui sont stériles financièrement. D'ailleurs, il y a beaucoup de chrétiens qui sont stériles financièrement. Qui laissent les richesses aux païens et qui souffrent de domination de la part des païens. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc nous devons vraiment le comprendre. Donc la connaissance de la parole, le plan de Dieu pour nos finances. Jésus nous a racheté de la pauvreté, nous avons vu tout cela. Dieu n'est pas un Dieu pauvre, mais Dieu est un Dieu ultra riche, il est dans la gloire. Et il veut que ça se déverse sur nous. Il veut que nous lui ressemblions. Donc, quelqu'un qui marche vraiment avec Dieu, qui est vraiment proche de Dieu, ne peut pas manquer de prospérer. Ça, je tiens à vous le dire. Sinon, ça veut dire qu'il y a une mentalité qui est mauvaise par rapport à cela. Ensuite, nous avons vu la loi de la semence et de la récolte. Et nous avons réalisé plusieurs choses. Dieu nous demande de donner à son royaume. Et au travers de cela, Dieu veut nous bénir davantage. Quand tu sèmes des finances dans le royaume, quand tu donnes à l'œuvre de Dieu, quand tu donnes ta dîme, quand tu fais des offrandes, c'est une semence. Et nous avons vu qu'une semence se reproduit selon son espèce. C'est une des plus grandes lois de la parole de Dieu. Ça s'applique aux finances, ça s'applique à d'autres choses, dans nos paroles, dans nos actions. Mais pour notre prospérité financière, c'est une loi importante et incontournable. Nous avons vu qu'il y a un temps entre semer et récolter. Et que Dieu veut nous amener de plus en plus dans des dimensions profondes au niveau
finance.
Ensuite, le troisième pilier que nous avons vu, c'est la foi.
Et
la foi est motivée par une vision qui s'accorde avec la parole de Dieu. Donc tu dois, si tu souffres encore de pauvreté ou de manque, tu dois avoir une vision que ça change.
Si tu es
dans certaines dimensions financières, il faut toujours que tu penses plus haut, plus loin. C'est important parce que Dieu a besoin de nos finances, frères
et sœurs.
L'œuvre de Dieu est grande à faire. Les ouvriers, il y en a, mais il faut pouvoir financer l'œuvre de Dieu. Et je vous ai montré le rôle des serviteurs de Dieu dans ce domaine-là. Le serviteur de Dieu qui doit avoir un certain comportement, qui doit donner un certain message parmi ces chrétiens. Parce que Dieu nous a donné des responsabilités. La gestion d'un peuple. Chaque pasteur, Dieu lui donne un peuple. Et il a une responsabilité d'aider ces chrétiens à changer ses mentalités. Et sur les choses spirituelles, sur les relations avec les gens, sur ses comportements, et aussi sur ses finances. Et nous avons une grande responsabilité par rapport à ça. Et en tant que serviteur de Dieu aussi, nous avons un comportement. Je vous ai montré les 12 lois du comportement financier du serviteur de Dieu. Nous en sommes au quatrième pilier qui est la valeur au travail. Parce que vous pouvez connaître la volonté de Dieu pour vos finances. Vous pouvez semer vos finances. Vous pouvez proclamer la parole de Dieu. Mais si vous n'êtes pas diligent dans votre travail, vous ne verrez pas Dieu vous toucher. Et l'excellence au travail, c'est quelque chose qui est très important. Dieu ne vous fera jamais prospérer si vous êtes négligent dans votre travail. Il n'ouvrira jamais des portes. Il y aura peut-être des portes naturelles qui vont s'ouvrir. Mais je vous garantis, vous n'irez pas loin si vous êtes négligent. Si vous êtes négligent dans vos affaires, vous n'irez pas loin non plus. Combien de personnes ont été négligents dans des héritages, ont été négligents pour prendre la succession par exemple de leur père? Leur père avait travaillé toute sa vie pour réussir quelque part alors qu'il avait commencé avec rien. Et d'un seul coup, le fils prend la suite. Et en quelques années, tout ce que le père a mis toute une vie à construire, le fils le détruit. On le voit souvent dans les successions,
frères.
Et des fois, malheureusement, c'est avec les chrétiens. Chrétiens qui perdent tout. Qui n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils ont un problème à l'excellence du travail. Et des fois, c'est des choses qu'on ne sait pas. C'est pour ça que l'Église a un rôle de nous enseigner par rapport à la parole de Dieu, parce que nous avons vu que la parole de Dieu a beaucoup à dire. Et nous avons vu qu'être diligent dans son travail, ce n'est pas forcément travailler beaucoup d'heures par jour. Parce qu'il y a des gens qui s'épuisent au travail, à travailler 20 heures par jour. Ils tombent malades et ils ne peuvent plus être productifs après.
Non,
nous avons vu que la diligence, c'est travailler intelligemment, de manière excellente. Nous avons vu des exemples comme Daniel et comme Joseph, des gens qui ne se donnaient aucune excuse pour la médiocrité et qui pourtant étaient dans des moments difficiles. Joseph, vendu comme esclave, fils d'un prince, d'une famille riche, le petit préféré, celui qui avait tout.
Mais
directement, il avait un caractère d'excellence. Et à 17 ans, il a commencé. À 30 ans, 13 ans plus tard, Joseph s'est retrouvé premier ministre de la plus grande nation du monde à l'époque. Dieu l'a amené là-haut selon la vision qu'il lui avait donnée au départ, parce qu'il avait un caractère d'excellence. Daniel a vécu en tant que déporté avec ses amis dans un milieu qui était complètement hostile, qui était satanique, qui avait plein d'histoires d'influence démoniaque là où ils étaient à Babylone. Mais c'était un homme qui a su traverser tous ces empereurs qui se succédaient, tous ces tyrans. Tous les gens qui lui ont voulu à sa vie.
Parce que
Daniel était un homme d'excellence. Alors nous avons vu ce qu'était la négligence. Comment des gens qui sont négligents dans leur travail sont vraiment des amis de ceux qui détruisent. On a parlé de la paresse. Et on a vu que quelqu'un qui veut prospérer ne peut pas être paresseux, c'est pas possible. Donc nous devons faire attention à tout cela. Parce que ça fait partie de certaines valeurs que Dieu veut que nous ayons. L'intégrité dans le travail, la valeur de l'excellence au travail. Ce soir, nous allons parler aussi de quelque chose qui nous empêchera de prospérer. Ça s'appelle l'avidité. L'avidité, on va essayer de... Hein, je ne sais pas en Kirundi si vous allez trouver le terme approprié, mais on va d'abord la définir. En fait, l'avidité, c'est d'être prêt à obtenir quelque chose à n'importe quel prix. C'est-à-dire que vous voulez quelque chose, peu en importe le prix. Vous êtes prêt à faire tout et n'importe quoi, le tout c'est que vous ayez ça. Ça c'est ce qu'on appelle l'avidité. On va regarder Proverbe 1, verset 19. Et l'envie et l'avidité, ça se rejoint quelque part. Mais l'avidité, ça va être une envie prolongée jusqu'à temps d'arriver à ses fins. C'est-à-dire que tu veux quelque chose et tu feras tout et n'importe quoi. Tu seras méconnaissable. Tu feras tous les coups possibles et imaginables pour arriver à tes fins. Pour arriver à obtenir ce que tu veux. Quelqu'un a défini l'avidité comme un cancer. Vous savez, il y a un certain nombre de cancers. La personne va bien, bon, elle se sent pas, ça va à peu près quoi, disons que ça va à peu près bien. Et au bout d'un moment, sa santé se dégrade. Elle va dans un hôpital et on lui dit, voilà monsieur ou madame, vous avez un cancer. Et c'est déjà dans un état très avancé. Et souvent, on dit, c'est trop tard. Donc en fait, les gens n'ont pas vu les symptômes au départ. Quelques petits symptômes qui étaient là. Et d'un seul coup, on leur dit, voilà, maintenant c'est trop tard. L'avidité, c'est comme ça. Parfois, il n'y a pas tellement de symptômes qu'on peut repérer. Et c'est comme un cancer qui va bouffer la vie d'une personne. Ça va détruire complètement sa vie. La vie des autres. Ça va anéantir parfois même ses finances. Ça va le mettre dans un tel compromis. Dans de tels péchés que ça va être comme un tourbillon qui va l'emporter. Regardons dans Proverbe 1, verset 19. Il est dit, ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent.
Ngo ukuni kwinzira zimeze z'umuntu wese w'ikirara ku nyungu. Inyungu ikuraho ubugingo bw'abanyeneyo
Donc ainsi en est-il de tout homme avide de gain. Ou dans d'autres traductions, telles sont les voies de celui qui est avide d'un gain illicite. Ça va causer la perte de celui qui s'y livre. L'avidité, c'est comme dans un jardin. Vous avez des belles plantes. Et au milieu de ces belles plantes, il y a des mauvaises herbes qui commencent à pousser. Et c'est ces plantes qui vont bouffer les autres. Alors, pour savoir si on est avide de quelque chose, quand vous voulez obtenir quelque chose, jusqu'à quel point vous êtes capable d'arriver pour l'obtenir ? Est-ce que vous êtes prêt à compromettre vos valeurs divines pour y arriver? Est-ce que vous êtes prêt à faire n'importe quoi, le tout c'est de l'obtenir? Si c'est le cas, c'est qu'il y a de l'avidité dans votre âme, dans votre caractère. Est-ce que vous êtes prêt à mentir, à tromper s'il le faut? À vous compromettre complètement. Juste pour obtenir peut-être la personne ou la chose. Là, on parle de finance. Et l'avidité, ça peut emporter toute votre vie. C'est ce que ce proverbe nous dit ici. Ça va causer la perte de celui qui se livre. Oh, pas tout de suite. Et je tiens à vous dire, l'avidité n'a rien à voir avec la détermination. Être déterminé est une bonne chose. Mais ta détermination doit être sanctifiée, c'est-à-dire que tu dois poursuivre quelque chose qui est divin avec une mentalité divine, avec des objectifs divins. Ça, c'est très bien. Tu es déterminé à voir des choses se produire. Tu as prié pour ça, tu as la foi pour ça. Tu vas mettre tout de ton côté, au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau action pour parvenir à tes fins, ça c'est bien parce que c'est divin. L'avidité, c'est complètement autre chose. Ça part d'une tentation. Ça génère l'envie. Et au bout d'un moment, ça t'amène dans le péché parce que tu n'as qu'une chose, tu te focalises sur ton objectif à tout prix et tu écrases tout le monde s'il le faut. Si vous ne savez pas ce que c'est que quelqu'un d'avide, regardez un bon païen qui est prêt à écraser tout le monde pour passer au-dessus de tout le
monde.
C'est quelqu'un qui est avide, il va corrompre. Il va tronquer des chiffres. Et ce qu'il veut, c'est avoir le marché. Il est prêt à tout. Il est prêt à parler mal sur les autres. Il est prêt à mentir à son banquier. Il est prêt à tromper même ses associés. Parce que derrière tout ça, il veut la chose. Nous avons quelqu'un qui était très avide dans l'Ancien Testament. Regardons son histoire dans 1 Rois chapitre 21. Il y avait pendant une période d'un grand prophète d'Israël, un roi et une reine qui avaient vraiment ce problème, et surtout la reine. Bien sûr, je pense que vous avez compris que le prophète était Élie. Et le roi, c'était le roi Akab. Et la reine, c'est la reine Jézabel. Pas Isabelle, Jézabel. Et au chapitre 21 de 1 roi, c'est l'histoire de la vigne de Naboth. Et là, on va voir combien cette reine était avide. Et qu'elle avait un mari qui était une lavette. En anglais, on dit « wimp ». En anglais, on dit « wimp », une lavette, quelqu'un qui vraiment se faisait contrôler par sa femme. Incapable de prendre des décisions. Manipulable. Si vous voulez voir quelqu'un comme ça, c'est Akaba. Akaba était quelqu'un de très faible au niveau caractère. C'était vraiment une lavette, une serpillière, comme on dit. C'est-à-dire quelqu'un qui se faisait facilement avoir par sa femme. C'était elle qui portait la culotte, c'était elle qui arrivait à faire tout ce qu'elle voulait dans le royaume d'Israël. Et lui, il suivait. Il dit après ces événements, verset 1, voici ce qui arrive à Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel du côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth, donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra chez lui, maussa, triste et furibond à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jizréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit et détourna le visage et ne mangea rien. Il a fait sa petite crise. Sa femme Jézabel vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit maussade et ne manges-tu point ?» Et il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizréel. Je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la royauté sur Israël ?» Lève-toi, mange de bon cœur. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. Elle écrivit alors au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. Imaginez-vous, elle utilise le nom de son mari. Elle envoya ces lettres aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Elle écrivit les lettres en ces termes. Proclamez un jeûne, faites asseoir Naboth à la tête du peuple et faites asseoir en face de lui deux vauriens qui témoigneront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait envoyé dire. D'après ce qui avait été écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées, ils proclamèrent un jeûne et firent asseoir Naboth à la tête du peuple. Les deux vauriens vinrent s'asseoir en face de lui, et ces vauriens portèrent ce témoignage devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Alors ils le menèrent hors de la ville et le lapidèrent, et il mourut. Ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te la donner pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. » Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel afin d'en prendre possession. Imaginez-vous un peu cette histoire. Cette femme avait de l'avidité. Elle utilisait son pouvoir et particulièrement le pouvoir de son mari pour ni plus ni moins arriver à ses fins. Elle a dit, tu veux la vigne de Naboth, mais rien de plus simple, c'est pas toi le roi. Moi, je vais te montrer comment on va faire. Je m'en charge. Et elle a utilisé des moyens très simples pour arriver à ses fins. Voilà de l'avidité. Les gens qui sont avides, ils sont obsédés par des buts. Ils se focalisent sur quelque chose en étant remplis de convoitise. Et ils cherchent par tous les moyens de l'obtenir. Et très souvent, toute leur vie se casse la figure. Ils sont prêts même à compromettre des relations qu'ils ont eues avec des gens pendant pendant des années, leurs meilleurs amis.
Ugasanga n'abagenzi yari afise kuva imyaka ugasanga arabahindutse.
Ils sont prêts à risquer des choses.
Agashobora kwemera guta ibintu bimwe na bimwe.
Pour obtenir ce qu'ils veulent.
Kugira ngo ashikire ico kintu arondera.
Et c'est très dangereux d'être avide, d'avoir de l'avidité.
Urumva kubikirana n'ikintu kibi.
Parce qu'ils se mettent dans des cercles vicieux qu'ils n'arriveront plus, dont ils n'arriveront plus à se dégager.
Kuko bishira mu bintu usanga bimugora kuvamo mu nyuma.
Ils mettent une machine en route.
Ugasanga ikintu yatanguje.
Qui finira par les détruire.
Ugasanga bonye n'abarasambutse
mu nyuma. Qui finira par détruire même leur famille.
Ivyo ugasanga bisambuye n'imiryango yabo.
Par anéantir leurs finances.
Bigasambura n'ivy'ubutunzi
bwabo. Par voler leur intégrité.
Bikabiba n'ubwizigirwa
bwabo. Ça a des conséquences terribles.
Ugasanga bizanye ingaruka mbi cyane.
Parce qu'au bout d'un moment, la personne est tellement aveugle.
Kuko ugambira usanga umuntu yahumye.
Qu'elle fait tout ce qu'elle peut.
Ugasanga akora ibishoboka byose.
Et le problème, même si elle a ce qu'elle veut.
Kandi naharonka ico kintu yashaka.
Elle ne sera pas satisfaite. Vous avez remarqué des gens comme ça? Ils font tout, ils détruisent tout ce qu'ils ont autour pour avoir quelque chose. Ou parfois même pour avoir quelqu'un. On voit par exemple des fois avec des histoires de fiancés ou fiancées et eux. Et en fait, d'un seul coup, on voit quelqu'un qui change complètement.
Ukabona umuntu mukanya gato yahindutse.
Qui fait une fixation.
Urumva gasanga aravuga ati nujya.
Il faut absolument qu'il se marie, qu'elle se marie avec moi.
Ati byanga byakunze nigwanje.
Ils font n'importe quoi.
Ugakora ibishoboka byose.
Même leurs amis ne les reconnaissent plus.
Ugasanga n'abagenzi ntibakimumenya.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Ati nibiki byabaye wewe.
Ils ne comprennent pas.
Ugasanga nibamutaho.
Parce que l'avidité quelque part ça rend fou les gens.
Kubera iki ari mu gihababu byamuboshe yahumye.
Et avec les histoires d'argent, il y a des gens qui sont complètement fous.
N'umuntu by'amafaranga hari abantu usanga bateye gucyo.
D'un seul coup, ils voient une possibilité de gagner beaucoup d'argent sans rien faire de spécial. Ils foncent dessus et ils sont prêts à faire n'importe quoi. Des gens qu'on connaît comme ça, qui ont complètement changé. Et le pire, même certains chrétiens. C'est ça le pire, quand vous avez des gros bons païens. Vous savez qu'il y a un gros P pour païens. Vous connaissez leur comportement. Mais des fois, le pire, c'est qu'on voit des chrétiens comme ça.
Ils
commencent à marcher avec le Seigneur.
Ils
commencent à s'engager avec Dieu. Et leur diable met quelque chose, un appât.
Ils
changent complètement. Complètement. Vous ne les reconnaissez plus. Vous savez qu'il y a quelque chose qui tourne par
rond.
L'avidité. Ce désir de vouloir des choses. À n'importe quel prix. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Écraser les autres. Pour arriver à vos fins. Ne vous fera jamais prospérer. Dieu ne pourra jamais vous bénir si vous avez cette mentalité. C'est pas comme ça que Dieu vous donnera des promotions. Dieu n'est pas dans ce coup-là. Et le pire encore, c'est qu'il y a des gens qui prient et qui ont cette mentalité-là. Ne cherche pas à écraser les autres. Cherche à être le plus intelligent de l'intelligence de Dieu. Si quelque chose semble te passer à côté, ne t'inquiète pas, Dieu est meilleur pour toi. Ça, c'est une mentalité divine. Mais souvent, les gens ne le comprennent pas. C'est vrai qu'au début, c'est difficile. Parce que tu es là, parce que tu connais le Seigneur. Donc, tu commences à te dire, oui, Dieu va faire ceci ou cela pour moi. Et des fois, ça ne se passe pas comme tu attends. Et tu vois d'autres personnes pour qui ça se passe. Et qui peut-être ne sont pas chrétienne. Alors d'un seul coup, ça crée quelque chose en toi. Regardons ensemble ce que Jacques dit. D'abord, on va faire un petit tour sur Galates quand même. Galates, après on va aller voir Jacques. La Bible nous dit dans Galates 5, 19 que les œuvres de la chair sont évidentes. C'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, l'hostilité, discorde, les jalousies, les sectes, les rivalités, les divisions, parti pris, verset 21, l'envie.
Baravuga ngo kandi ibikorwa bya kameremere kacu biramenyekana nibi ubushakanye, ibihumanya, ivyiso n'inke, gusenga ibigwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari,
l'avidité. C'est une envie qui devient monstrueuse en quelque sorte, où tu fais une fixation tellement forte
que
ça va commencer à diriger ta vie vers une direction différente de laquelle tu avais commencé à mettre le cap. Donc vous voyez, l'avidité, ça va beaucoup plus loin que l'envie. C'est une envie obsessionnelle en quelque sorte, qui fait que tu orientes tout vers ton objectif. Sur l'argent que tu vas gagner, ça devient une telle obsession que en fait, tous les obstacles qui vont être devant toi, tu voudras les balayer, mais pas du tout, ni par la foi, ni avec des procédés divins, mais avec des mentalités de
païens.
La Bible nous dit dans Jacques chapitre 1, au verset
14
et 15. Mais chacun est tenté par sa propre convoitise, lorsque sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Alors, cherchez un petit peu dans votre vie. Quand quelque chose se présente devant toi, qui peut être un gain important, un changement de situation financière, quelle est ton attitude par rapport à ça? Fais très attention à ton attitude. Est-ce que ça commence à créer en toi des pensées de compétition, des pensées bizarres de fixation où tu ne penses plus qu'à
ça,
tu commences à vouloir écarter tout le monde, quelle est ton attitude par rapport à ça, que tu te sens dans un espèce de combat où finalement tu dois arriver à cet objectif
là
et d'un seul coup ça porte énormément sur ton caractère, c'est-à-dire que ça te fait changer de la mauvaise façon. Ça, ce sont des mauvais symptômes. Fais attention que tu ne sois pas pris par le cancer de l'avidité, que tu ne sois pas prêt à compromettre les valeurs que tu crois sur lesquels tu as construit ta vie pendant toutes ces années, parce que tu penses que c'est ce truc-là qui va d'un seul coup te faire prospérer. L'avidité va créer tellement de conflits autour de nous. Tu vas faire du mal aux autres, tu vas briser des relations. Les gens ne te reconnaîtront plus et ne voudront plus être trop proches de toi. Quand il y a de l'avidité dans le cœur de quelqu'un, personne ne peut conseiller cette personne. Il n'écoute plus personne. Il est là, rempli de convoitise.
Et
il commet péché après péché après péché. Et la Bible nous dit que ça cause la perte de ceux qui s'y livrent. Ça cause la perte de celui qui va se livrer à la convoitise et à l'avidité. Comment se débarrasser de cela? Si tu commences à avoir ces symptômes, que tu commences à être transformé de la mauvaise façon, mal influencé, parce que tu veux arriver à des objectifs à tout prix, et que tu commences à réaliser ces choses, qu'est-ce que tu dois faire? D'abord, il faut que tu saches une chose. Dieu veut que tu sois en contrôle de ta vie. Dieu veut que tu sois en contrôle de ta vie. Et tu as la capacité, la puissance par le Saint-Esprit. Par la pensée de Dieu que tu as dans sa parole. De contrôler ta vie. Rappelle-toi que Dieu a fait de toi un gestionnaire.
Donc,
c'est à toi de contrôler ta vie. Le genre de truc, Seigneur, je ne veux plus faire une fixation sur ça. Seigneur, ôte-moi toutes ces pensées. Enlève-moi toutes ces mauvaises pensées par rapport à ça. Ça ne marche pas. Ça va être à toi de travailler sur toi-même. Donc, une des choses que tu dois faire, quand tu as certains buts, avoir des objectifs et des buts, c'est bon, c'est excellent dans la vie. Maintenant, faites attention à vous concentrer sur les bons objectifs plutôt que sur les gains. Le problème, c'est qu'il y a des chrétiens, quand ils commencent à prospérer, ils veulent voir le gain, le gain, le gain. Non,
ce
n'est pas ça l'objectif. Réalise des choses. Le gain, c'est le produit de ce que tu as réalisé. Mais fais attention à ton attitude par rapport à ça. Ensuite, une chose à laquelle tu dois faire attention. Si tu veux prospérer, sers-toi de ton travail. Pas d'espèce de petit truc qu'on va te proposer et qui d'un seul coup vont changer ta situation financière. Il
n'y
a pas d'enrichissement rapide, le petit truc qui va complètement changer votre situation. Tu ne fais quasiment rien dans les affaires et d'un seul coup, tu penses que dans les 15 prochains jours, on te propose une affaire qui dans 15 jours va faire de toi un milliardaire. Vous savez, si vous regardez un petit peu le monde de la finance, on vous propose plein de trucs qui vont d'un seul coup vous faire devenir riche. Sur Internet, vous avez plein de trucs où on vous donne entre guillemets des témoignages de gens qui font telle ou telle chose avec leur argent ou qui gagnent tant d'argent comme ça tous les jours, des trucs et des machins qui d'un seul coup vont vous faire devenir riches, des loteries. Mais dans la loterie, si vous avez 1 million de personnes, si vous avez 1 million de personnes qui jouent, il y en a une qui va gagner le gros lot. Et ça, on va vous la montrer. Mais on ne vous montrera pas les 999 999
qui n'ont rien
gagné. Là où on va vous montrer la personne qui a gagné la voiture, qui avait gagné la grosse somme d'argent. Mais on
ne
vous dira pas qu'il y a eu 999 999 imbéciles qui auront payé pour cela, plus tous ceux qui ont organisé le truc. Ça, on
ne
vous le dira jamais. Parce qu'il y a bien quelqu'un qui a payé. Et il y en a 999 999 qui ont payé pour celui qui a gagné, plus tout le reste que les organisateurs se sont mis dans la poche. Donc ne soyons pas stupides. Il y a bien des gens qui vous proposeront l'affaire du siècle. Et là, il faut faire attention. Et il y a pas mal de gens qui se font avoir, qui disent, ça y est, le Seigneur m'a donné quelque chose et d'un seul coup, waouh, je vais gagner 1 million de dollars. Non, il
n'y
a pas de telle chose. Ça ne marche jamais comme ça. Dieu peut te bénir surnaturellement, mais ça sera un acte de sa part, parce que tu auras mis des lois en action.
Mais
il
n'y
a pas le petit truc qui va d'un seul coup faire de toi un milliardaire. Ça, ce sont des illusions. Et on va parler d'un deuxième trait de caractère qui nous empêchera aussi de prospérer, c'est la naïveté. On va définir quelqu'un de naïf. En fait, quelqu'un de naïf, c'est quelqu'un qui croit tout ce qu'on dit. Et je vais vous montrer ce que c'est que la naïveté.
On
va l'appeler Umunaïf. Ok, on va regarder Proverbe 14, verset 15. Vous savez, souvent, par spiritualité, on manque de bon sens. Vraiment, souvent, nous les chrétiens, nous sommes souvent des gens naïfs, on croit facilement des choses. Et après tout, c'est un peu normal. Parce que quand vous n'avez pas une mentalité tordue, vous avez du mal à imaginer qu'il y ait des gens qui ont des mentalités tordues. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de loups à l'extérieur qui sont prêts à vous manger tout cru et à manger tout votre argent facilement.
Proverbe
14, verset
15.
On va regarder un peu, il y a des choses intéressantes.
Vous
savez, il faut qu'on soit rempli de sagesse et d'intelligence divine. On fait des bêtises. Moi, j'en ai fait plein comme ça. Mais des bêtises. Des trucs bêtes où je me disais, mais pourquoi je me suis engagé là-dedans? Pourquoi j'ai donné de l'argent là-dedans? Pourquoi j'ai cru ça? On se fait tous rouler quelque part. Maintenant, c'est bien de se faire rouler sur des petits trucs. Mais quand on se fait rouler sur des gros trucs, ça fait mal. Donc, Proverbe 14, verset 15 nous dit, l'homme simple, en fait naïf, c'est ça qu'on va voir, croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas.
Alors,
je vais vous donner un peu de vocabulaire français, tu ne pourras pas traduire tout ça, je pense que ça va être difficile. Mais là où il est dit l'homme simple, c'est traduit par quelqu'un qui est sot, stupide, qui est niais. Quelqu'un qui est niais pour certains, vous savez ce que ça veut dire. Quelqu'un qui est insensé, arrogant, fou. En fait, quelqu'un qui est naïf, quoi. Je pense que dans toutes les langues, toutes les cultures, on a une définition quelque part de ce genre de personne. Alors, en fait, c'est être naïf, être simple, c'est croire tout ce que quelqu'un va vous dire. Quelques années après avoir été sauvé, j'avais un ami comme ça. Il venait tout juste de se convertir. Mais il était terriblement naïf. Et il est passé par des trucs. C'était grave. C'était vraiment grave. Pourtant, c'était un garçon qui avait fait une expérience avec Dieu terrible, vraiment extraordinaire. C'était un garçon qui était drogué, qui vivait dans l'immoralité sexuelle grave, qui était dans l'ivresse, qui était vraiment une vie détruite, complètement déréglée. Vraiment, il se droguait, mais grave. En fait, il vivait la nuit et il dormait le jour, comme ces gens-là. Et pourtant, c'était un artiste, c'était quelqu'un qui était très doué, un très très bon musicien. Et ce jeune homme, il était naïf. Ils avaient une société avec son père. Et franchement, ils n'ont jamais réussi. Pourtant, ils avaient des bons produits. Et c'est son père, c'était quelqu'un d'intelligent. Mais on verra que vous pouvez être intelligent et naïf. Vous pouvez être très intelligent, académiquement parlant, vous pouvez être inventif, vous pouvez être créatif, mais vous pouvez être naïf.
Et
ce chrétien, il me téléphonait souvent.
On
se connaissait, on priait avec lui. Il était jeune dans la foi, donc j'essayais de l'aider dans ma connaissance. Et alors souvent il me disait, tu sais pas Olivier, j'ai rencontré hier soir un mec super, comme il disait si bien, c'est-à-dire quelqu'un qui était vraiment formidable, qui l'avait impressionné. Et tu sais, il me propose de faire ça et ça avec lui. D'investir, faire des trucs et des machins. Et à chaque fois, il s'appelait Jean-Pierre. J'ai dit, Jean-Pierre, écoute, tu connais d'où celui-ci? Oh, je l'ai rencontré, on était dans un restaurant, on s'est salué et je l'ai rencontré. Il attirait que des gens comme ça. Et alors, c'était du style, il prêtait sa voiture et le type qui lui empruntait sa voiture, soit il lui volait sa voiture, soit il avait un accident avec sa voiture. Il n'avait que des ennuis parce qu'il attirait que des ennuis. Un jour, ils avaient des produits, en fait c'était des importateurs. Et ils importaient des chaussures d'Espagne à l'époque. Et ils avaient des bons produits, ça commençait à pas mal marcher. Et puis ils se sont dit avec son père, tiens, on va faire de la grosse importation. Alors ils ont été en Inde. C'était il y a 20 ans, à peu près, un peu plus de 20 ans maintenant. Et alors, ils ont été en Inde, on leur a fait visiter des grandes usines de chaussures. Ils sont venus d'Inde. Ils priaient. Et alors, ils ont commandé 100 000 paires de chaussures. Ils avaient fait des calculs. Tout était vraiment... Ils devaient faire des bénéfices extraordinaires. Ils commandent tout ça, ils envoient l'argent, on leur envoie les 100 000 paires de chaussures. Toutes les paires de chaussures avaient des défauts. Des rayures invendables en France. Ils ont été obligés de brader ça à des prix à perte. Pourquoi? Parce qu'ils avaient envoyé des grosses finances à des gens sans rien vérifier. Ils auraient dû être là en chargeant dans l'avion. Ils auraient regardé la qualité. Mais une fois que tout était là, que c'était payé, c'était fini. Ils ont coulé leur société. Ils ont eu des ennuis. Mais c'était un peu la conséquence de sa naïveté. Il tombait toujours avec des gens qui lui empruntaient de l'argent. Qui devait lui rendre dans les 15 jours, mais qui ne rendait jamais l'argent parce que ces gens-là disparaissaient. Quelqu'un qui était vraiment, au niveau de ses relations, c'était ah, tu, Steve, t'es un bon gars, tu sembles bien, tu parles bien, allez, viens, on va faire des affaires ensemble, on ne se connaît pas. C'était quelqu'un qui était comme ça, naïf. Vous savez, la personne qui a inventé la télévision, c'est une personne qui a terminé sa vie d'une façon catastrophique. C'est un Américain qui a compris le principe, comment, je vais vous expliquer avec des canons électrons, ça va être trop compliqué, mais disons que techniquement parlant, c'est lui qui a découvert le principe de pouvoir recevoir des images au travers d'un objectif et aussi le principe de la télévision. Un inventeur qui aurait dû faire fortune. Un gars très intelligent qui a inventé ça. Le principe de la télévision et le principe des caméras. Cet homme-là, un jour, il a été visité par quelqu'un qui venait d'une grande société américaine,
qui
a été voir sa découverte. Et il a eu la naïveté de tout expliquer. Comment ça marchait, ce qu'il avait trouvé, il était tellement content. Évidemment, la grosse société a fait quoi? Elle a pris l'idée. Elle a déposé un brevet sous son nom d'invention. Et cet homme-là, c'est une catastrophe. Il était tellement naïf, il a tout donné. Et la société a dit, c'est nous qui avons découvert, c'est le principe de la télévision des caméras. Et ils ont fait fortune avec ça, évidemment. Ils ont fait fortune. Un type intelligent. Mais naïf. Et c'est des gens qui ont pris son invention et qui ont fait fortune sur son dos. La naïveté n'est pas de Dieu. Je ne vous dis pas de tout cacher à la Burundaise, mais quand même. Il y a quand même un équilibre entre les deux. Alors, quelles sont les raisons de la naïveté ? Alors les gens naïfs, d'abord la première chose, c'est qu'ils prennent les choses d'une façon trop simple. En fait, ils veulent des trucs, ils simplifient tout en disant oh oui, je suis d'accord avec ça, c'est très simple. Et ils prennent des décisions sans réfléchir. Parce qu'ils simplifient tout. Et il y a des choses sur lesquelles on doit réfléchir. S'il y a quelque chose qui se présente à nous qui peut être intéressant à faire, on
ne
peut pas dire, oh bah oui, il y aura juste ça à faire et ça va marcher. Non, non, ça c'est simplifier les choses à l'extrême. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'ils ont une confiance aveugle et mal placée. Vous savez, la technique des gens qui font du marketing, c'est de vous montrer que vous ne pouvez pas vivre sans leurs produits. Ce sont des experts. Vous pouvez arriver à ne avoir à penser à rien du tout de spécial. Vous rentrez dans un endroit, par exemple, juste comme ça, pour jeter un coup d'œil, et vous ressortez avec une voiture neuve et un gros crédit sur le dos. Vous arrivez à la maison, vous dites, madame, j'ai acheté une voiture. Mais attends, tu partais juste faire une course là-bas. Oui, mais j'ai rencontré un monsieur, il était bien habillé. Il m'a montré l'importance d'avoir une voiture toute neuve.
Et
il m'a fait signer tout ça. Ça, c'est la naïveté. Et il y a des gens, ils sont capables de vous vendre tout. Ils sont formés pour ça. Ils sont formés pour vous montrer que vous avez absolument besoin de leur truc. Les Américains sont des experts. Ils vous expliquent que tout va changer votre vie. Dans toute leur publicité, il y a un appât pour vous faire acheter le truc. En fait, il s'arrange que à chaque fois que vous regardiez la publicité, vous êtes frustré de ne pas avoir le truc qu'ils ont montré là, si vous ne l'avez pas acheté. Vous êtes frustré. Ils ont des gens formés, s'ils vous parlent, vous êtes foutus. Ils vous embarquent. Donc c'est une confiance mal placée. Et là par contre il y a deux extrêmes. Il y a les gens qui cherchent à vous manipuler. Ils vous rencontrent, ils voient par exemple vous avez des sous. Ou vous avez un potentiel et il cherche à vous manipuler, c'est-à-dire qu'il vous cache la vérité, il vous montre juste un peu le côté un peu brillant. Ça, c'est, donc vous leur faites confiance, vous croyez ce qu'ils vous ont dit, et là vous allez faire naufrage. Parce qu'en fait vous croyez tout ce qu'ils vous
disent.
Un personne est là, il vous raconte certaines choses, elle vous montre tous les bons côtés, il vous cache tous les mauvais côtés. Elle cherche à vous manipuler, à vous rouler, mais bon, il a l'air bien, il parlait bien, il ça a l'air d'être une super affaire. Et vous marchez aveuglement. Par contre, il y en a d'autres, c'est pas comme ça qu'ils vous auront. Ils sont là, ils sont super excités par quelque chose.
Ils
pensent que c'est la bonne affaire à faire. Et vous dites, c'est super. On a fait les calculs, ils sont ultra positifs. Vous montez dans le bateau, tout le monde est excité. Et là, tout le monde fait naufrage ensemble. Donc, ils n'ont pas cherché à vous manipuler, mais sous leur excitation, vous avez été, je dirais, contaminé par leur excitation. Troisième chose que les gens naïfs ne voient jamais, enfin, voient à outrance, pardon, c'est les apparences. Quelqu'un peut paraître brillant, quelqu'un, une chose, une affaire peut vous paraître intéressante. Et vous savez, il y a des experts pour vous en mettre plein la vue, pour vous aveugler, entre guillemets. Et il y a des gens, parfois, ils voient quelque chose. Je connais un prédicateur comme ça, ça va vous faire rire.
C'est un,
il habite ici et il a été un jour aux États-Unis. Et il est
venu
dans son église. Il a dit, mes frères, l'Amérique, c'est le ciel. Et il disait ça à son église. Parce que c'était quelqu'un d'impressionnable. Si l'Amérique était le ciel, ça serait pas très loin pour aller au ciel.
Alors.
Et parfois, il y a des gens qui sont impulsifs avec les apparences. Ils ont vu quelque chose et ils en rêvent pendant pendant des nuits et des nuits et des nuits. Mais rappelez-vous d'une chose. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. La première impression, c'est peut-être pas forcément la bonne impression sur une affaire ou sur quelque chose de particulier. Ensuite, quatrième chose, la paresse. Quand on est paresseux, eh bien, on ne veut pas trop creuser quand on nous propose quelque chose. On a tendance à plonger directement. On ne va pas chercher les avantages et les inconvénients si ce qu'on nous dit, c'est vrai, parce qu'on n'a pas envie de faire l'effort d'aller voir un petit peu plus loin. Et ça, c'est dangereux.
Et
il y a des gens, parfois, qui sont, on les embarque dans certains trucs. Et puis, ils disent, oh, c'est pas grave, je m'occuperai vraiment de voir si tout est vrai un peu plus tard. Et puis, la décision presse et ils prennent leur décision. Ils se font avoir. Ensuite, la cinquième chose pour les gens naïfs, c'est la précipitation. La peur de rater le truc le plus extraordinaire qui va vous propulser dans les hauteurs. Si tu es comme ça, je te dis une chose, le réveil sera un cauchemar. Tu vas faire des cauchemars et tu vas te réveiller en sursaut. Vous savez, le truc qu'on vous dit, il faut t'engager, mais c'est aujourd'hui. À 18h, après c'est fini. Et tu sais, il est déjà
17h56.
Donc il faut absolument que tu prennes ta décision là tout de suite. Prudence avec ça. Parce que les sentiments sont une chose, mais la conviction du Saint-Esprit, c'est autre chose. C'est vrai qu'il y a des fois où on peut louper de bonnes affaires quand on n'agit pas tout de suite, je suis d'accord. Mais la plupart du temps, la précipitation, c'est un piège. Et en partie, ça vient de la naïveté. Pas toujours, des fois ça vient de la convoitise. Mais faisons attention, frères et sœurs. Se précipiter est une mauvaise chose. Proverbe 21, verset 5. Il est dit, les pensées de l'homme actif ou diligent, donc qui travaille avec intelligence, vont vers l'abondance, la prospérité. Mais celui qui agit avec précipitation va vers la disette. Faites attention aux gens qui vous pressent pour que vous mettiez de l'argent. C'est dangereux.
C'est bien.
La plupart du temps, tu vas faire des actions irréfléchies. Et tu vas perdre de l'argent, tu vas tout perdre. Tu dois prendre une décision avec sagesse. En ayant prié et en ayant la conviction, tu dois faire ça. Souvent, on se fait tellement rouler avec ça parce qu'on veut se précipiter. On se dit, ça y est, c'est le bon truc, faut y aller. Tu y vas, tu te précipites et paf! Comme par hasard, ça ne marche plus. Comme par hasard, le type avec qui tu as déjà donné de l'argent, il ne répond plus au téléphone. Ouh, ça commence à être mauvais. Tu vas chez lui à la maison et il rentre très tard ces derniers jours. C'est très mauvais. Là, tu as perdu la partie. Paraît-il que tu devais voyager avec la super affaire et te la ramener pour aller chercher la super affaire. Et c'est bizarre parce qu'il devient introuvable, mais il est toujours sur le territoire. Méfie-toi des gens qui veulent faire des pressions pour que tu agisses avec précipitation. Ensuite, les gens naïfs, c'est des gens qui ont une vision étroite des choses. C'est des gens qui veulent agir sur leur propre connaissance, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas le conseil des autres. Vous savez, Dieu est bon et Dieu veut placer sur notre route des gens de bons conseils.
Ils
seront des éléments de notre prospérité. Mais encore faut-il les trouver, ces gens-là. Et faut-il accepter quand ils te disent, tu sais, je pense que tu te trompes ici. Il y a des gens qui ne sont pas forcément de bons conseils, qui sont pourtant de bons chrétiens. Je tiens à vous le dire. Mais sache qu'il y a des gens qui sont de bons conseils et que tu dois avoir dans ton entourage, qui ont le Saint-Esprit et qui peuvent aussi te dire... Tu sais, je ne me sens pas à l'aise si tu fais ça. Et des fois, ça va te permettre de mieux voir les situations. Alors, l'honnêteté aussi, l'honnêteté est parfois, malheureusement, un facteur de naïveté. L'honnêteté doit faire partie du caractère du chrétien. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, souvent les gens honnêtes n'ont pas une mentalité tordue et ils ont du mal à s'imaginer qu'il y a autour d'eux des gens tordus. Des fois, j'ai personnellement rencontré des gens. On se demande combien d'heures ils ont réfléchi à des trucs tordus. Je n'arrive pas à comprendre ces gens-là. Je n'arrive pas à comprendre comment ils fonctionnent. Ils ont élaboré tout un tas de projets tordus pendant des dizaines d'heures, voire plus, alors qu'ils auraient pu utiliser ces heures-là pour être productifs et faire des choses des bonnes choses, des choses intelligentes.
Bari gushobora gufata ayo masaha yose bakayakoresha mu kubaka no mu gukora ibintu ngirakamaro.
Mais c'est sûr que quand tu es honnête, tu n'as pas tendance à être trop prudent. C'est normal parce que tu n'as pas une mentalité tordue. Tu t'imagines que l'autre ne te fera pas de coup tordu parce que tu n'y penses même pas.
Wewe rero uri umuntu w'imvuga kuri birakugora kugira amakenga kuvuga uti jewe bona tamuntu ashobora kumbesha kuko n'umuntu ameze neza ameze nkanje.
Et malheureusement, ça nous amène souvent, nous les chrétiens, à nous faire avoir.
Parce
qu'on s'engage avec des gens, on veut faire des choses avec des gens parce que on est honnête et qu'on pense que l'autre, il ne peut être
qu'honnête.
Et c'est là où nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu. Parce que c'est triste à dire, soupçonner le mal n'est pas bon. La Bible nous dit que l'amour ne soupçonne pas le mal.
Kandi ntabwo ari ibintu byoroshye kubera ko birutubwira ngo umuntu agendera mu rukundo ntiyiyumvira ikibi ku bandi.
Mais il y a un équilibre entre les deux.
Ariko habaho kuringaniza neza kuri ibyo
bibi. Entre tout le temps soupçonner le mal, attention, attention, attention. Des fois je vois ici, des fois c'est drôle. Il y a des gens comme ça, ils disent attention, 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 il va faire un sale coup, il va faire un sale coup.
Kuguma rero wikeka ikibi ku bantu, umenga ugumukanuye amaso umenga agira akumere nabi agira gucemwo.
Il regarde partout si l'autre va prépare pas un mauvais coup.
Uruvuka gumuraba nta kibi ariko arategura nta kintu kibi ariko arategura.
Faut pas être naïf.
Nta kubesha nta
kubaho. Non plus tu vas pas soupçonner le mal à tous les carrefours.
Urumva nta kubaho uvuga ngo reka ndamureka akore canke nta kubaho uvuga ngo ahavangira nabi ni byiza kuba hagati nawe.
Donc il y a un équilibre entre la prudence.
Habaho hagati n'hagati hagati ukugira makenga cyane.
Et la naïveté.
No kuba no vuga imburabwenge.
Et ça, c'est quelque chose. Ça s'appelle le discernement, le vrai discernement spirituel.
Alors,
il y a aussi l'arrogance et l'orgueil.
Et
il y a des gens qui sont là, qui sont complètement naïfs, parce qu'ils disent, après tout, les autres ont échoué là, mais moi, je vais réussir.
Et
tu fonces naïvement et boum, tu te retrouves par terre.
Ensuite,
les mauvaises priorités.
Et
il est très important quand il y a des décisions à prendre qui vont impliquer nos finances, qui vont impliquer nos familles, donc qui vont impliquer notre vie, parce que rappelez-vous que nos finances, c'est une partie de notre vie.
Il y a un
temps où on te propose quelque chose d'intéressant, où tu vois quelque chose d'intéressant.
Et
il y a un temps où tu vas agir. Et entre ce laps de temps, c'est le laps de temps où tu dois gérer des priorités.
Par
rapport à la décision que tu vas prendre. Si tu gères mal tes priorités dans ce domaine-là,
tu
es sûr que tu vas prendre une mauvaise décision ou tu as des chances de prendre une mauvaise décision.
Et
à ce moment-là, tu vas te planter. Tu vas foncer et boum, tu vas te retrouver par terre. Alors, brièvement, pour conclure, la solution à ça. Nous devons apprendre à être diligents pour prendre les bonnes décisions. Donc, diligence, ça veut dire je vais me mettre au travail par rapport à cette décision que je vais prendre qui va impliquer mes finances. J'ai un projet où des gens viennent me voir.
On fasse
des choses ensemble. D'accord, mais d'abord, je veux voir l'excellence, je veux chercher l'excellence par rapport à tout ça. Ces gens-là, qui sont-ils réellement? Est-ce que ce projet est vraiment viable? Est-ce que les chiffres qu'on m'a avancés, c'est pas tout et n'importe quoi? Je prie par rapport à ça, je passe du temps. Je cherche vraiment le Seigneur. Ensuite, il faut savoir dire non quand vous devez dire non.
Quand tu
n'es pas en paix dans ton esprit, parce que tu as le Saint-Esprit en toi, il faut que tu saches dire non. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse de dire non à quelqu'un. Ce n'est pas non plus une insulte. Tu dois simplement savoir dire non quand tu sens qu'il faut dire non pour éviter de t'engager. C'est ton argent. Tu ne dois pas accepter de pression. Rappelez-vous toujours d'une chose, quand il y a trop de pression, quand il y a des pressions, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair derrière. Ça veut dire que souvent on vous cache des choses pour vous faire agir très rapidement. Et attention, la précipitation, c'est mauvais. La Bible le dit, c'est très clair. Donc ça risque de vous faire perdre de l'argent. Vous pouvez questionner toutes les personnes qui ont réussi dans ce monde financièrement. Chrétiens et non-chrétiens. Elles vous diront toutes qu'elles ont perdu de l'argent dans des affaires. Et certains vous diront des sacrées sommes d'argent. Je suis en train de lire un livre d'un businessman qui est aujourd'hui quelqu'un d'extrêmement riche, qui a échoué lamentablement pendant des années et des années dans sa vie, et qui a su mettre en pratique les principes de la parole de Dieu. Et cet homme disait que sur certains investissements, où il a agi avec naïveté, avec précipitation, il y a certains investissements où il a perdu 97% de son investissement sur des millions de dollars. Mais au travers de ça, il a appris. Je vous rappelle, l'important, ce n'est pas les erreurs que vous faites. L'important, c'est de savoir tirer des leçons de nos erreurs et de nous corriger avec la parole. Les erreurs sur votre parcours sont invariables. Vous ne pourrez jamais faire un parcours parfait, ne vous faites pas d'illusions. Et si vous pensez ça, c'est que vous êtes orgueilleux. Obligatoirement, vous vous tromperez quelque part. Mais l'important, c'est que ce ne soit pas récurrent, que ça ne se passe pas régulièrement dans votre vie, parce que sinon, vous allez tout le temps tout perdre. Et le temps va passer, et après, vous allez passer une vie à avoir échoué partout. Donc, il faut faire attention à nos choix. Bon, pour faire les bons choix, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un temps pour choisir, et pour ça, c'est un temps où il faut aussi se mettre dans la prière. De réfléchir pour savoir si c'est vraiment ça ou pas. Ensuite, il faut faire des choix avisés.
Sage.
Donc, la Bible nous parle de la prudence. Trop de prudence, ce n'est pas bon. Aucune prudence, c'est dangereux. Trop de prudence vous freinera complètement. Et si vous avez une vision, si vous avez de la foi, si vous avez vraiment, vous connaissez la volonté de Dieu, ça vous bloquera. Mais le contraire est vrai aussi. Aucune prudence, ça vous amènera partout, vous perdrez de l'argent partout, on vous roulera et vous serez de réputation, on pourra venir vous voir et vous rouler.
Ensuite,
troisième chose, laisser du temps au temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Laissez cette idée, cette future décision mûrir en vous, dans votre cœur. Vous sentirez au bout d'un moment si c'est l'approbation du Seigneur ou si c'est vraiment charnel de votre vie. Vous êtes en train de vous embarquer dans un truc qui n'est pas bon.
Donc,
laissez du temps au temps. Ensuite, cherchez des conseillers sans tout divulguer. Il y a des choses que vous pouvez dire. Il y a des choses que vous devez garder pour vous. Même le meilleur des conseillers. Il y a des choses que vous devez garder pour vous. Ce n'est pas une question de cacher des choses. C'est une question qu'il y a des choses qui sont personnelles, qui vous appartiennent. Il y a des choses que vous pouvez partager jusqu'à un certain niveau. Là, je ne parle pas de mari et femme, ce n'est pas la même chose. Je parle de gens qui sont extérieurs à la famille. Même des bons amis, il y a certaines choses que vous ne direz pas à certains bons amis, parce qu'il y a certains plans que vous devez garder pour vous-même jusqu'à temps de les accomplir. C'est normal. Ensuite, choisissez de bonnes personnes au niveau de vos amis et dans le business. Ça, c'est important. Vous avez besoin d'un bon entourage. Ce bon entourage veille sur vous. Et vous veillez sur les autres. La Bible nous dit de veiller les uns sur les autres. La Bible ne nous dit pas de nous surveiller avec des satellites espions les uns les autres, mais nous dit de veiller sur les uns sur les autres. C'est-à-dire quand tu vois ton frère ou ta sœur avec laquelle tu es proche, parce que nous avons tous des cercles proches de proximité, eh bien, ton frère ou ta sœur doit être capable de te dire, tu sais, mon frère et ma sœur, je pense que là, tu es en train de t'embarquer dans un truc qui n'est pas bon pour toi. Et ça se crée au fil des années. Ensuite, la dernière chose pour clôturer, c'est que la prudence, c'est un choix journalier. C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu dois apprendre à développer dans ta vie.
D'une
façon divine, c'est-à-dire que tu dois être prudent dans certains domaines. Ça doit être une attitude. Ne prends pas des décisions irréfléchies. Sinon, ça va te mener dans des problèmes. Ce sont des choses simples de la vie que nous partageons. Moi, ça me fait du bien d'étudier ce genre de choses et on partage ça ensemble. Parce que ce sont des choses de la vie dont nous avons besoin dans la vie. Pour réussir avec le Seigneur. Je vois beaucoup de chrétiens qui échouent lamentablement dans beaucoup de domaines parce qu'ils n'arrivent pas à associer spiritualité avec sagesse et intelligence divine. Et ça, c'est quelque chose que les gens associent difficilement. En fait, je m'aperçois que beaucoup de gens prient, sont sincères, ils aiment le Seigneur, ils reçoivent des choses du Seigneur, la pensée de Dieu, ils ont la pensée de Dieu dans la parole, ils aiment étudier la parole, mais ils ont du mal à réaliser des choses avec l'aide de Dieu. Et ça, c'est dommage. Parce qu'on voit beaucoup de gens agir sans sagesse. J'en ai fait partie pendant bien des années. Je suis numéro un dans le domaine. Il n'y a que depuis quelques années où j'ai compris certains principes que j'essaye de vous enseigner, que j'essaye de mettre en vous. Vous savez, quand j'étais formé à Réma aux États-Unis, pour moi, il y avait la foi, la parole, et j'aimais l'onction. Mais je me suis aperçu qu'il y a d'autres choses que nous devons développer, comme notre caractère, comme notre façon d'être leader, comme toutes sortes de choses, la sagesse, l'intelligence spirituelle, savoir comprendre comment Dieu fonctionne, comment recevoir de lui et amener les choses à la réalisation de manière pratique. Parce que moi, je pensais, comme beaucoup de gens, que tout était dans l'esprit. Tu peux recevoir beaucoup de choses dans l'esprit et échouer complètement dans ta vie. Si tu ne sais pas appliquer ce que tu reçois du Seigneur, les temps, les moments, les façons de te comporter, la façon dont tu t'engages aussi avec les autres, et on fait plein d'erreurs. Et il y a parfois des erreurs qui nous coûtent presque toute notre vie, malheureusement. Donc nous devons apprendre. Et ce sont des choses qui sont simples. Mais par exemple, la naïveté, c'est quelque chose que j'ai vu bien des fois chez des gens. Et après, ils prient. Oh, pasteur, tu vois les problèmes que j'ai. Mais tu t'aperçois que c'est la personne qui a été le générateur de ses propres problèmes. Je vous dis 90% de nos problèmes, nous les avons générés. Bien sûr, si vous comprenez ça, vous allez apprendre à faire beaucoup plus attention à ce que vous faites et à mettre en place les lois du royaume de Dieu pour éviter plein de problèmes, parce que la majorité des problèmes que nous avons et pour lesquels nous prions que Dieu nous sorte, c'est nous-mêmes qui nous sommes mis dedans. Si tu comprends ça, tu as compris beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne fin de semaine et puis...